DW. Le journal. Carole Assignon.
Il est 17h en temps universel, une heure de plus en Allemagne. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Nous sommes ensemble pour une heure d'information et de magazine. Au sommaire, les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, où la première ministre Judith Suminwa Tsumiya est en tournée pour évaluer l'état de siège. Une tournée sur fond d'avancée du M23 vers les zones minières et de violation du cessez-le-feu. Dans ce journal, on s'intéressera également à la situation des déplacés soudanais, réfugiés notamment au Tchad, un pays lui-même dans une situation politique et économique critique. Les réactions au lendemain de l'émission par la CPI de mandat d'arrêt visant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, et les inquiétudes suite au tir de missiles balistiques hypersoniques de la Russie qui a visé l'Ukraine. Voilà pour le programme, mais avant le développement de tous ces thèmes, on fait d'abord le tour d'horizon des nouvelles dans le monde, et c'est avec Georges Ibrahim Tounkara. Bonsoir.
Bonsoir à tous. L'Allemagne dit examiner les suites à donner au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Le Royaume-Uni annonce également qu'il respectera ses obligations légales vis-à-vis de la CPI. Dans la suite de ce journal, nous reviendrons sur les réactions dans le monde à ces mandats d'arrêt de la CPI.
Des mandats d'arrêt consécutifs donc au conflit à Gaza entre le Hamas et Israël qui s'est étendu au Liban.
Et selon l'OMS, ce sont près de 230 agents de santé qui ont été tués au Liban depuis le début de la guerre à Gaza, la plupart depuis l'escalade entre Israël et le Hezbollah en septembre dernier. Par ailleurs, selon le gouvernement italien, 4 soldats italiens ont été légèrement blessés lors d'une nouvelle attaque contre la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban, la FINUL. L'Italie et la force onusienne en attribuent la responsabilité au Hezbollah. Quant au ministère de la Santé du Hamas pour Gaza, il a averti ce vendredi que tous les hôpitaux du territoire palestinien devraient cesser ou réduire leurs activités sous 48 heures, accusant Israël de bloquer l'entrée des carburants sur le territoire. Cet avertissement survient alors que la bande de Gaza est en proie à une grave crise humanitaire après plus d'un an de combat entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien, le Hamas.
Pas de réunion aujourd'hui au Parlement ukrainien.
La séance prévue aujourd'hui a été simplement annulée par crainte de frappe russe en plein cœur de Kiev au lendemain du tir par la Russie d'un nouveau missile balistique et de menaces de Vladimir Poutine à l'adresse de l'Occident. Après ce tir, le président russe s'était adressé à la nation jeudi soir en faisant porter la responsabilité de l'escalade du conflit sur les Occidentaux. Il estimait que la guerre en Ukraine avait pris désormais un caractère mondial et menacé de frapper les pays alliés de Kiev. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, proche du Kremlin, appelle les pays occidentaux à ne pas minimiser les menaces de la Russie. L'OTAN et l'Ukraine doivent se retrouver mardi à Bruxelles pour évoquer la situation selon des sources diplomatiques.
L'Iran poursuit son programme nucléaire.
Téhéran a annoncé la mise en service de nouvelles centrifugeuses avancées en représailles à l'adoption d'une résolution critique par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, condamnant les activités nucléaires de Téhéran, pointée du doigt pour son manque de coopération. Le nouveau projet d'accord sur le financement de l'action climatique dans les pays en développement est totalement inacceptable. C'est la réaction du président du groupe africain à la COP29 à Bakou. La proposition faite par les pays développés de fournir 250 milliards de dollars par an d'ici 2035 est totalement inacceptable et inadaptée pour mettre en œuvre l'accord de Paris, a notamment déclaré le négociateur kényan Ali Mohamed au nom du groupe.
Dans l'actualité également, des suppressions d'emplois en Allemagne.
L'industriel Bosch, leader mondial des équipementiers automobiles, a annoncé prévoir 5550 nouvelles suppressions de postes dans le monde, principalement en Allemagne, en raison des difficultés sur le marché des véhicules neufs. L'industrie automobile souffre de la baisse de la demande, de retard dans la transition vers l'électrique et de la concurrence accrue des fabricants chinois. Bosch avait déjà annoncé ces derniers mois plusieurs volées de suppression d'emplois dans le monde. L'économie allemande, dont l'industrie automobile est l'un des piliers, est particulièrement touchée par les difficultés du secteur. Volkswagen, fleuron national, traverse une crise inédite discute et négocie actuellement un plan d'économie qui pourrait conduire à des milliers de licenciements, voire des fermetures d'usines en Allemagne. Et puis pour terminer, ce chiffre, 281, c'est un nombre record de 281 travailleurs humanitaires qui ont été tués dans le monde cette année, selon les Nations Unies, qui demandent que les responsables soient poursuivis. L'ONU souligne que la guerre à Gaza fait grimper les chiffres. Il y a eu au moins 333 travailleurs humanitaires qui ont été tués rien que dans la bande de Gaza depuis le début du conflit en octobre 2023.
C'était le bulletin d'information avec Georges Ibrahim Tounkara. Merci Georges Ibrahim Tounkara. Il est 17h05 en temps universel, la suite du journal.
DW.
Les tensions restent vives dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où le M23 poursuit son avancée stratégique vers les zones minières. Des violations du cessez-le-feu s'accumulent, ce qui alimente les accusations mutuelles entre l'armée congolaise et les rebelles. Pendant ce temps, la première ministre Judith Suminwa est en tournée dans l'est pour évaluer l'état de siège instauré depuis 3 ans dans les provinces du nord Kivu et de l'Ituri. Ruth Alonga nous fait le point depuis Goma.
Depuis 8 heures de ce vendredi 22 novembre, des bombardements à l'artillerie lourde ont ciblé la ville de Sake et ses environs. Laurence Kanyuka, porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo, alliée des rebelles du M23, a, sur sa page X, accusé l'armée congolaise de violer le cessez-le-feu en vigueur. Depuis environ une semaine, les rebelles du M23 progressent dans le territoire de Walikale. Leur objectif, s'emparer des richesses minières stratégiques de la région. Mais selon des sources locales à Walikale, les zones minières n'ont pas encore été atteintes. Les derniers affrontements ont été signalés à 18 km du centre de Pinga, laissant les mines de Walikale pour l'instant à l'abri. Néanmoins, le M23 maintient son emprise sur les mines de Rubaya dans le Masisi, ainsi que celle de Lueche dans le Rutshuru. Et Mimbusa Mukanda, un notable du territoire de Rutshuru, témoigne de l'impact de cette situation sur les communautés locales.
Aujourd'hui, les FRDC respectent les cessez-le-feu, mais au fait fort dans les territoires de Rutshuru, c'est là où il y a des affrontements souvent entre les Wazalendo, CMC et les M23. Depuis au moins plus de 6 mois, la mine de Rubaya, la mine de Somikivu est exploitée par les rebelles du M23. Ce n'est pas seulement les minerais qui sont pillés, même les cultures des paisibles populations sont pillées.
Dans le Rutshuru, le M23 a demandé aux habitants d'évacuer le village de Boutare, prétextant une zone opérationnelle. Mais pour Patient Tuizere, membre de la société civile locale, cette explication masque des graves exactions.
Les terroristes du M23 sont en train de chasser cette population sous prétexte qu'ils sont en collaboration avec les FDLR, alors que c'est faux. Parce qu'au niveau même des Tongo, ils ont déjà exterminé cette population. Au niveau des Binza, ils sont en train de massacrer les gens tous les jours par des balles et par machettes.
Au milieu de ce climat de tension, la première ministre Judith Suminwa est en visite dans le Nord Kivu et l'Ituri. Accompagnée de membres de son gouvernement, elle évalue l'état de siège, mesure critiquée pour son inefficacité face à une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader. Alors que les violations du cessez-le-feu persistent, la question de la suppression de l'état de siège continue de diviser les Congolais, beaucoup considérant cette mesure comme plus politique que pratique. Ruth Alonga à Goma pour la Deutsche Welle.
Et au sujet de la RDC, toujours l'ex-première dame Olive Lembe Kabila a confirmé l'absence de son mari du pays après des rumeurs de fuite présumée de son époux. Mais elle a démenti tout exil, expliquant qu'il est plutôt parti pour des études à l'étranger et compte revenir mieux aguerri pour, dit-elle, contribuer à l'avenir du pays. Une déclaration qui fait le tour des réseaux sociaux, Mireille Drone.
David de Kinshasa souhaite déjà bon retour à Joseph Kabila, affirmant qu'il sera accueilli à bras ouverts et le bienvenu à la tête de la RDC en 2028. Hazina, aussi dans la capitale, se dit perdue par l'absence et le silence de Kabila et se réjouit aussi de cette nouvelle. Mais pour de nombreux autres abonnés sur la toile, c'est un non-événement. Distraction, dit par exemple Tantine Tukoki de Kinshasa. Après avoir plongé le pays dans la crise totale, il pense aujourd'hui à son développement. Comédie, écrit Janvier de Lubumbashi. Stanis de Kinshasa s'étonne qu'il faille d'abord aller étudier à l'étranger pour créer des emplois pour la population, arranger le social et bien diriger le pays. Certains, comme Grâce de Kinshasa, soupçonnent plutôt Joseph Kabila de faire des choses dans l'obscurité avec les agresseurs du M23 pour déstabiliser le pays. Il est le père fondateur de l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC, dirigée par Corneille Nanga, la plateforme politico-militaire dont fait partie le M23, souligne encore Kalala de Lubumbashi. Selon Onésime de Kinshasa, l'ex chef de l'État ne pense pas au développement du pays, mais plutôt à s'enrichir encore davantage avec les biens du pays. Il a écrit son histoire, pour lui c'est fini, note Emmanuel de Goma. Et Felima de Lubumbashi suggère à Joseph Kabila de rester là où il est, sinon il perdra même l'honneur avec lequel il est parti.
Au Soudan à présent, le conflit qui oppose depuis avril 2023 les paramilitaires des forces de soutien rapide à l'armée a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Il a aussi jeté sur les routes plus de 11 millions d'habitants, dont plus de 3 millions ont fui le pays, notamment au Tchad, un pays lui-même dans une situation politique et économique plus que critique. Svenja Schulze, la ministre allemande du Développement, a pu s'en rendre compte récemment. Katharina Kroll et Constance Fischer pour les détails.
Enfin, elle a réussi à traverser la frontière qui sépare le Soudan du Tchad. Avec ses dernières forces et une petite carriole dans laquelle elle a transporté le peu d'affaires qui lui reste, Mariam a fui son pays d'origine, un pays complètement à terre, dit-elle. Et pour le moment, aucune tentative de négociation n'a abouti. Alors en attendant que la paix revienne, des milliers de réfugiés comme Mariam ont réussi à rejoindre le poste frontière d'Adré, puis le Tchad, où ils espèrent trouver au moins la sécurité. Au Tchad, l'un des pays les plus pauvres du monde, où un habitant sur trois vit dans l'extrême pauvreté, Adré est une petite ville de 40 000 habitants. Elle abrite désormais un camp de réfugiés de 230 000 personnes. La ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, a pu s'en rendre compte récemment en allant sur place.
N'importe quel pays serait dépassé par une telle quantité de réfugiés. Aucune région, aucun pays ne peut y faire face seul. C'est pourquoi la communauté internationale doit faire preuve de solidarité ici. Elle doit soutenir davantage le Tchad.
Svenja Schulze a elle-même promis une nouvelle aide de 57 millions d'euros de la part de Berlin, même si le Tchad n'est pas un partenaire évident. Premier problème, avec l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby, le climat pour les opposants et les journalistes ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Deuxième problème, certains partenaires du Tchad sont problématiques pour l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis par exemple, qui allouent certes des aides budgétaires au gouvernement de N'Djamena, mais qui sont aussi soupçonnés d'acheminer des armes vers le Soudan via le Tchad. Un secret de polichinelle qui concerne aussi la Russie, même si N'Djamena fait mine de ne rien savoir.
Moi, je ne connais pas des pays qui livrent des armes.
Dit Abderrahman Koulamala, chef de la diplomatie, ce qui n'étonne pas Baldal Oyamta, coordinateur national de la Ligue des droits de l'homme au Tchad.
C'est un ministre, il a ses intérêts. Je ne pense pas qu'il puisse dire le contraire de ce que le gouvernement veut donner comme information.
Pendant ce temps, dans l'est du Tchad, à la frontière du Soudan, les organisations humanitaires tentent tant bien que mal de faciliter le quotidien des réfugiés. Svenja Schulze, la ministre allemande, l'a elle-même reconnu. Il est peu probable que les réfugiés arrivés au Tchad puissent, dans un avenir proche, rentrer dans leur pays. D'où la nécessité de leur donner des perspectives sous forme de champs et de pâturages, afin qu'ils puissent, le plus rapidement possible, subvenir à leurs besoins.
Et j'ajoute en ce qui concerne le Soudan qu'en dépit de la situation dramatique, la semaine dernière, le pays s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un rare moment donc de joie et de fierté pour les amateurs de football soudanais. Puisqu'on parlait tout à l'heure des réfugiés, eh bien ils sont des milliers de réfugiés à fuir aussi les violences de Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Parmi eux, des femmes comme Hawa, originaire de Banki, dans le nord du Nigeria, qui fait frontière avec le Cameroun. Cette femme de 39 ans a perdu tout ce qu'elle avait. Elisabeth Hassen, notre correspondante au Cameroun, l'a rencontrée et elle nous relate les défis auxquels cette dernière fait face au quotidien.
Banki, ville frontalière avec le Nigeria, la tension est encore présente. Les militaires sont en constante alerte. Les islamistes continuent de semer la terreur dans la région. Hawa est l'une des victimes.
Ce sont mes enfants. Ils sont 10 au total. Deux d'entre eux sont mes petits-enfants. Leur père a été tué par Boko Haram. Mon mari a aussi été arrêté pour vol.
Cela va faire un an déjà que Hawa, 39 ans, est arrivée à Maroua dans le quartier Ourné. La jeune femme a tout perdu. Elle a fui son village pour sauver sa vie et celle de ses enfants. Mais aujourd'hui, elle se retrouve sans ressources et sans soutien.
Les enfants ne vont pas à l'école. Je n'ai pas d'argent pour payer leur école. Et ça fait pratiquement 4 jours que les enfants et moi n'avons pas mangé.
Le logement est également un défi permanent pour Hawa et ses 10 enfants. Ceux-ci vivent dans une petite case. Ils n'ont pas de literie et dorment à même le sol. Malgré cela, Hawa est menacée d'expulsion par le propriétaire des lieux. Pour gagner un peu d'argent et nourrir ses enfants, Hawa travaille comme blanchisseuse chez des particuliers.
Je fais du porte-à-porte dans plusieurs maisons pour pouvoir faire le ménage et laver les habits pour au moins 100 francs ou 200 francs. Et nourrit mes enfants.
Depuis 2013, début des attaques de la secte Boko Haram dans cette partie du Cameroun, les femmes et les enfants payent le lourd tribut. Ces crises multiples dans l'extrême nord et dans les régions anglophones ont fait que le pays compte 1 million de déplacés internes, selon le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires. Plus de 60% de ces personnes déplacées à l'intérieur du pays sont par ailleurs des femmes, selon ONU Femmes Cameroun. Marie-Pierre Aki-Chopin, représentante résidente de l'institution onusienne, déplore le manque de ressources.
Malheureusement, les moyens dont nous disposons ne suffisent pas à adresser la réponse globale. Mais nous travaillons en partenariat aussi avec les agences, dont le mandat principal est de travailler à accompagner les réfugiés, notamment le HCR.
La même difficulté s'est posée il y a quelques mois avec le Programme alimentaire mondial et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui ont mis en garde contre le risque d'interruption de l'assistance alimentaire vitale aux réfugiés dans les régions de l'extrême nord du Cameroun en raison du déficit de financement. Elisabeth Hassen, de retour de Maroua pour la Deutsche Welle.
En bref, à présent, le chef du principal parti d'opposition tanzanien, Freeman Mbowe, a été arrêté ce vendredi avec d'autres responsables à quelques jours de la tenue des élections locales dans le pays, selon son parti. Chadema, à en croire le porte-parole du parti, la police aurait tendu une embuscade à un convoi dans la forêt de Halongo, dans l'ouest du pays, et a arrêté le président ainsi que plusieurs autres donc dirigeants du parti qui l'accompagnaient.
Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
Au Mali, la classe politique continue de réagir à la désignation du général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre. C'est le cas de Moussa Mara, ancien chef du gouvernement malien, qui estime que l'esprit de la charte de la transition n'a pas été respecté. Mais il préfère juger la nouvelle équipe gouvernementale à travers les actes qu'elle poserait dans les prochains jours, voire les prochains mois. L'ancien Premier ministre Moussa Mara répond aux questions de Maramadou Kane, notre correspondant à Bamako.
A priori, depuis le second coup d'État et le changement qui est intervenu, nous avons maintenant un président de transition qui est militaire, alors que la charte à l'origine était très claire par rapport à la gestion civile de la transition. Moi, je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Nous sommes dans la dernière étape de la transition. Laissons les choses comme elles sont et essayons de regarder le contenu plutôt. Qu'est-ce que le nouveau gouvernement doit faire pour que nous ayons une transition qui s'achève par des élections transparentes, crédibles et qui vont vraiment consacrer le retour à l'ordre constitutionnel plein et entier. Pour moi, c'est le plus important. C'est pourquoi je souhaiterais vraiment que le gouvernement s'ouvre et travaille avec les forces vives.
Un ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques, un soutien au processus électoral, est-ce que ça vous donne de l'espoir?
Ça donne de l'espoir, vraiment ça donne de l'espoir parce que soutien au processus électoral c'est nouveau, c'est un nouveau gouvernement et comme d'autres partis l'ont dit, nous sommes disponibles. Ce pays nous appartient à nous tous et personne n'est contre la transition. On veut que la transition réussisse et s'achève positivement. Donc on est disponible pour y contribuer sans être dans un poste déterminé, on est désintéressé, on veut aider. Et on souhaite que le gouvernement s'ouvre à cela.
Chogel Kokala Maïga a quitté la primature. Mais est-ce que c'est un plaisir pour vous qui vous rejoigne au sein, quand même, pas de l'opposition, mais au sein de la classe politique?
Bon, c'est un acteur politique et je pense qu'il a annoncé la couleur. À mon avis, il entend continuer à jouer son rôle. C'est un acteur politique. Seulement, il a beaucoup vilipendé la classe politique. Et ça, c'est dommage. Mais il n'y a pas d'exclusif, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde est le bienvenu pour contribuer au débat d'idées et faire en sorte que la transition se passe bien. Personne ne doit souhaiter que la transition échoue et qu'il y ait une crise ou qu'il y ait une chute. Nous devons tous prier et souhaiter pour que ça se passe bien. Nous devons jouer notre rôle dans ça sans animosité, sans rancune, parce que le pays est au-dessus de nous.
Voilà, c'était Moussa Mara, l'ancien chef du gouvernement malien, qui répondait aux questions de Maramadou Kane, notre correspondant à Bamako. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé hier à Niamey un protocole d'accord sur la fin des frais d'itinérance des communications téléphoniques, encore appelé roaming. Les représentants des agences de régulation des télécommunications des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, étaient réunis à Niamey pour signer cet accord. L'objectif des autorités des trois pays est d'offrir à leurs population, je cite, la possibilité de communiquer sans le poids du surcoût d'itinérance qui freine la mobilité et les liens entre les peuples. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a tenu ce vendredi une réunion d'urgence avec de hauts responsables sécuritaires après une fusillade au domicile de l'ex-chef des services de renseignement. Les autorités sud-soudanaises assurent enquêter sur cette fusillade qui a eu lieu jeudi soir à la résidence d'Akolkor. Ce dernier a été limogé il y a près de 2 mois. Des rumeurs le concernant faisaient état de préparatifs d'un coup d'État. Il est 17h19 en temps universel. Il est temps pour nous à présent, comme tous les vendredis, de jeter un coup d'œil sur les vidéos que nous vous proposons sur nos différentes plateformes en ligne. Et c'est avec Mireille Dron.
En Centrafrique, où les jeunes sont les plus affectés par le chômage, après la guerre civile qu'a connue le pays, le sculpteur gabin Yanonji travaille l'ébène depuis 20 ans et redonne de l'espoir aux jeunes désœuvrés. Voyez comment dans le reportage de notre correspondant à Bangui, notamment sur notre page Facebook dw.français. Au chapitre Histoire, la guerre d'indépendance du Cameroun reste vivace dans les mémoires, en particulier dans l'ouest du pays, où des sites historiques rappellent cette sombre période de l'histoire camerounaise. Suivez les témoignages recueillis par notre correspondant Henri Fautso sur notre site internet dw.com/français. Et puis une photo peut changer une vie. 3 photographes africaines en donnent la preuve, elles qui utilisent leur art pour capturer des histoires, éveiller les consciences et inspirer le changement. Laissez-vous donc inspirer par elles, par exemple sur notre compte X, dw-français. Et puis sur YouTube, de nombreuses vidéos aussi, par exemple un reportage dans lequel de nombreux Congolais racontent comment ils se sont mobilisés pour acheter leur ticket de loterie et tenter de gagner le droit de demander un visa pour les États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure. C'est à voir sur DW 77%. Et nous vous invitons aussi à répondre sur YouTube à un questionnaire pour nous aider à améliorer notre offre. Alors, nous comptons sur vous.
Voilà, l'appel est lancé. N'hésitez donc pas à aller faire un tour sur nos différentes plateformes pour aller voir ou revoir toutes ces vidéos et répondre, pourquoi pas, au questionnaire.
DW. Le monde à votre portée.
On vous en parlait dans le sommaire et également dans les nouvelles. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense sont visés par des mandats d'arrêt émis hier jeudi par la Cour pénale internationale. Les deux hommes sont soupçonnés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit à Gaza. Le gouvernement israélien dénonce cette décision et affirme que la CPI a perdu toute légitimité à exister et agir. Le président américain Joe Biden juge, lui, scandaleux ces mandats d'arrêt. D'autres pays comme la Turquie, l'Italie ou encore les Pays-Bas se disent prêts à coopérer avec la CPI. La Cour a également émis un mandat d'arrêt contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Tour d'horizon sur des réactions à ces mandats d'arrêt avec vous, Georges Ibrahim Tunkara.
Les réactions ont été très vives à côté israélien. Benjamin Netanyahou a qualifié de décision antisémite l'émission de ce mandat d'arrêt international à son encontre et contre son ancien ministre de la Défense. « C'est un jour noir pour la justice, un jour noir pour l'humanité », a écrit sur X le président israélien Isaac Herzog. Israël défend les vies de ses citoyens contre des organisations terroristes qui ont attaqué notre peuple, tué et violé. Ces mandats d'arrêt sont une prime au terrorisme, a déclaré pour sa part le chef de l'opposition Yair Lapid. Pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, les mandats d'arrêt émis par la CPI doivent être respectés et appliqués. L'Allemagne, pour sa part, s'est montrée prudente. Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères.
Comme je l'ai dit, nous respectons le droit national, européen et international. Et c'est pourquoi nous examinons maintenant ce que cela signifie exactement pour nous en termes de mise en œuvre nationale.
La France dit prendre acte des mandats d'arrêt émis par la CPI et rappelle son attachement au travail indépendant de la Cour. Pour le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, l'Italie sera obligée d'arrêter le premier ministre israélien ou son ancien ministre en cas de visite dans le pays. Principal allié d'Israël, les États-Unis ont rejeté les mandats d'arrêt émis par la CPI. Joe Biden, le président américain, a dénoncé une décision scandaleuse. Le premier ministre hongrois Viktor Orban, dont le pays occupe la présidente tournante de l'Union européenne, a adressé une invitation à Benjamin Netanyahu pour protester contre le mandat d'arrêt de la CPI. Côté palestinien, le Hamas salue la décision de la Cour. L'autorité palestinienne évoque de son côté un signe d'espoir. La CPI estime qu'il y a des raisons valables de penser que Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense ont utilisé la faim comme arme de manière ciblée et intentionnelle contre la population palestinienne de la bande de Gaza. La Cour poursuit en affirmant que l'approvisionnement en eau, en électricité et en aide médicale a été rendu impossible, y compris pour les organisations humanitaires sur place à Gaza.
Et j'ajoute que les ministres des Affaires étrangères du G7 qui se réunissent lundi et mardi près de Rome discuteront des mandats d'arrêt lancés par la CPI, notamment contre Benjamin Netanyahu et Mohamed Deif. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la première ministre italienne Giorgia Meloni. Une terrible escalade. C'est ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié aujourd'hui le tir de missile balistique hypersonique de la Russie qui a visé une usine militaire à Dnipro dans le centre de l'Ukraine. Hier, le président en russe a présenté ce tir comme une réponse aux deux frappes réalisées ces derniers jours par Kiev en territoire russe. Une escalade qui effraie le monde du couple tatalon.
Ce sont devant les élus locaux rassemblés à Berlin que le chancelier allemand s'est exprimé. S'il a parlé d'une terrible escalade dans le conflit, il est toutefois resté sur sa position de prudence dans le soutien militaire à Kiev. L'Allemagne ne fournira pas à l'Ukraine des missiles de croisière capables de pénétrer profondément dans le territoire russe. Et cette position ne devrait pas changer de sitôt, d'autant que des élections se profilent à l'horizon et que Olaf Scholz compte bien se faire réélire. Selon un sondage paru jeudi, 61% des Allemands soutiennent par ailleurs la décision du chancelier de ne pas fournir à Kiev des missiles Taurus. Selon Moscou, Kiev a tiré cette semaine pour la première fois depuis le début de la guerre des missiles occidentaux contre des cibles situées en Russie. C'est donc en réponse à ces attaques que l'armée russe a tiré jeudi son nouveau missile balistique hypersonique. Baptisé Oreshnik, c'est-à-dire noisetier, cette arme conçue pour porter une ogive nucléaire était jusqu'à présent inconnue dans l'arsenal russe. Il s'agit d'un missile balistique à portée intermédiaire, difficile voire impossible à intercepter selon Moscou et qui peut atteindre des cibles comprises entre 3000 et 5000 km. S'il est une menace pour la quasi-totalité des pays d'Europe, certains experts estiment que ce missile pourrait aussi théoriquement toucher des cibles sur la côte ouest des États-Unis. Pour le Kremlin, il est certain qu'à Washington où l'administration Trump se met lentement en marche en attendant l'investiture de Donald Trump, on a compris le message de Vladimir Poutine dans son allocution de jeudi. Si la Russie affiche une certaine assurance et semble se mettre en position de force en cas d'éventuelles futures négociations, du côté de l'Ukraine, c'est l'inquiétude qui domine. Inquiétude que la Russie frappe à nouveau. Le Parlement ukrainien a annulé sa séance de ce vendredi par crainte de frappe russe. Inquiétude également que Donald Trump réduise ou stoppe l'aide militaire américaine, une aide pourtant vitale pour l'armée ukrainienne. À Moscou, les partisans du Kremlin en sont convaincus, la Russie ne cédera pas face aux Occidentaux, alors que Vladimir Poutine, qui a lancé la guerre en Ukraine en février 2022, a estimé jeudi soir que ce conflit avait désormais tout d'une guerre mondiale. Des menaces non dénuées d'une allusion aux armes nucléaires et qui ne sont pas prises à la légère. L'OTAN et l'Ukraine devraient se retrouver mardi à Bruxelles pour aborder le sujet.
Les précisions de Hugo Flotatalon, dont c'est le dernier jour avec nous à la rédaction aujourd'hui, à qui nous souhaitons bon vent puisqu'il part vers d'autres aventures. J'ajoute concernant l'Ukraine que l'Ukraine a dit attendre des décisions aujourd'hui concrètes contre Moscou lors de cette réunion mardi avec l'OTAN. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui par ailleurs de produire en série et de continuer à tester au combat le nouveau missile balistique hypersonique Oreshnik utilisé la veille, on le rappelle, pour frapper l'Ukraine. 17h28 en temps universel, on passe à présent au sport.
DW. Le sport. Ali Fahad.
Ce soir, début de la 11e journée de Bundesliga avec le Bayern Munich qui accueille le FC Augsbourg dans le derby bavarois. Ali Farhat.
Leader de Bundesliga avec 26 points, soit 5 longueurs d'avance sur le RB Leipzig, son premier poursuivant, le Bayern Munich reste sur 5 victoires consécutives sans avoir encaissé le moindre but. À domicile face à Augsbourg, 13e du championnat, les Bavarois apparaissent donc comme les grands favoris. Mais l'entraîneur Vincent Kompany préfère rester méfiant. Après tout, même s'il a quasiment toujours été battu à l'Allianz Arena, le FCA est une équipe capable de poser des problèmes au Bayern Munich.
Le Bayern a souvent eu des problèmes face à cette équipe lors des dernières années. Et puis c'est un derby, c'est toujours spécial d'affronter ses voisins. L'an passé, le FCA était dans la course à l'Europe, c'est donc un club qui se développe bien. Quant à l'entraîneur Jesse Tyrop, je le connais de Belgique. À nous maintenant de ne pas sous-estimer cette équipe.
Bayern Munich FC Augsbourg, coup d'envoi prévu à 19h TU. Demain, à partir de 13h25 en temps universel, vous retrouverez Sophie Serbini et Fiacre Ndairagige en direct sur la DW et sur nos radios partenaires pour la rencontre Dortmund-Fribourg, un Borussia intraitable à domicile avec 5 victoires en autant de matchs cette saison, mais qui devra se méfier de cette équipe de Fribourg, 5e du championnat, toujours capable de jouer les troubles faites. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen recevra Heidenheim, Leipzig évoluera sur la pelouse de Hoffenheim, Stuttgart accueillera le VfL Bochum, tandis que Wolfsburg défiera l'Union Berlin. À 17h30 TU, l'Eintracht Francfort tentera de confirmer son bon début de saison face au Werder Bremen. Enfin dimanche, il y aura deux rencontres au programme pour clore cette 11e journée de Bundesliga, Kiel-Mayence et Gladbach-St. Pauli.